Quand j'avais 20 ans, je suis parti dans l'Himalaya faire un trek avec un groupe d'étudiants indiens. Je venais d'arriver à Delhi dans le cadre de mes études et j'ai vu ce trek proposé dans le Himachal Pradesh par le club de randonnée de la fac. L'expédition consistait à passer le col de la Pin Parvati qui culminait à 5300 mètres d'altitude. J'ai appris par la suite que ce club de randonnée n'avait organisé que des marches dans le désert. Que les guides recrutés sur place n'étaient que de simples porteurs qui n'avaient aucune expérience de guide de haute montagne. Mais à ce moment-là, pour moi, aller marcher dans l'Himalaya, c'était juste féerique. Après une semaine d'entraînement sur le campus, on est une vingtaine d'étudiants à être sélectionnés, donc principalement des étudiants indiens, dont les trois organisateurs, un autrichien et moi-même. Les premiers jours, tout se passe bien, on marche dans de superbes forêts, on traverse des villages reculés, des sources d'eau chaude, je suis aux anges. Dès le troisième jour de marche, je remarque que Somedjit et Prashant, deux étudiants, ont plus de mal que les autres. Ils s'essoufflent rapidement et ils ont fréquemment besoin de faire des pauses. À part deux organisateurs qui ferment la marche, le gros de la troupe avance loin devant sans se soucier d'eux. Alors moi, en montagne, on m'a toujours appris que le groupe doit rester soudé. C'est un principe de base. Donc je reste en arrière avec eux, j'essaie de les encourager. De temps en temps, les autres s'arrêtent pour nous attendre, mais dès qu'on les a rejoints, ils repartent et laissent moins de temps à Somedjit et Prashant pour récupérer. Peu à peu, le paysage évolue, il devient de moins en moins végétal et de plus en plus minéral. Les paysages deviennent de plus en plus grandioses. On arrive ainsi aux abords du lac Mantalay, c'est somptueux. Dès le cinquième jour, on doit franchir une paroi très abrupte dans de la rocaille. On est déjà à plus de 4500 mètres d'altitude, on s'essouffle vite, et les difficultés de Somedjit et Prashant crèvent les yeux. On a un mal fou à franchir cette paroi avec eux, et quand on arrive en haut, on se rend compte que les autres ont continué sans nous attendre. Or, le lendemain, c'est le jour où on doit passer le col à 5300 mètres. Au réveil, à 3h du matin, Somedjit se met à hurler sous la tente, il implore de ne pas y aller. Les organisateurs le prennent à part pour le raisonner, le convaincre de continuer. Moi, comme les autres, je brûle d'impatience de franchir ce col. Ça fait 5 jours de marche harassante que je suis focalisé sur cet objectif. Et j'ai aucune envie de rebrousser chemin, donc à ce moment-là, je ne dis rien. On finit par lever le camp vers 5h, et dès le début, c'est extrêmement dur. Entre l'oxygène qui se fait rare et le relief accidenté, il nous faut 1 heure pour parcourir 300 mètres. Somedjit et Prashant ont énormément de mal, on doit sans cesse les attendre, et il fait très froid. Vers la fin de la matinée, il se met à neiger. Là, il y a un moment de flottement, les porteurs s'impatientent, nos organisateurs se réunissent, et là où un guide de haute montagne aurait jugé absolument déraisonnable de franchir le col aussi tard, ils décident, eux, de continuer. Donc très rapidement, le brouillard et la neige nous enveloppent, tout devient blanc autour de nous. Je vois à peine le marcheur devant moi et je commence à avoir vraiment peur qu'on se perde. Les autres n'emmènent pas plus large, il faut dire que nos tenues sont hyper rudimentaires et que pour la plupart d'entre eux, ils voient la neige pour la première fois de leur vie. Donc les porteurs perdent leurs repères, ils finissent par tracer tout droit et on se retrouve à devoir franchir plusieurs crevasses. Somedjit est à bout de force, il y a 3 personnes qui l'aident, et lui qui était taiseux se met à paniquer. Donc là je me dis qu'il faut tenter quelque chose, et je décide de lui porter son sac pour l'alléger. Mais quelques mètres plus loin, Somedjit s'écroule dans la neige et commence à délirer en bengali, sa langue natale. On reste à 6 ou 7 autour de lui, désemparés, transi de froid, et pendant ce temps-là, les autres continuent d'avancer et ils disparaissent derrière la crête du col. À un moment, Jagat, l'un des seuls étudiants montagnards du groupe, a un éclair de lucidité et il me dit « Jeremy, go ! Vas-y, rattrape-les, dis-leur de nous attendre. Because of one man, all of us cannot die. » À cause d'un seul homme, on ne peut pas tous mourir. Et là, soudain, je me rends compte que, effectivement, Somedjit est vraiment mal en point, mais qu'on est tous en danger de mort, en fait. Donc, avec l'énergie du désespoir, je rejoins l'avant du groupe et je les retrouve au-dessus du col, errant, hagard, derrière les porteurs qui continuent d'avancer. Donc je fonce sur eux, je leur arrache une tente et je retourne la planter juste au passage du col. On la monte à quelques-uns et on s'engouffre à une quinzaine à l'intérieur, frigorifiés, épuisés, terrifiés. Un peu plus tard, les autres nous rejoignent et montent une deuxième tente. Quelqu'un éclate en sanglots. Je comprends plus trop ce qui se passe. Pendant toute cette longue nuit, je suis obsédé par la peur que, à tout moment, les vents hurlants déchirent la toile de notre tente et qu'on meure tous de froid. Au petit matin, la tempête avait cessé, on a pu repartir. On est dans un sale état, frigorifié, affamé. La descente est dangereuse, on est tous encordés, personne ne parle. Somedjit n'est plus parmi nous, mais j'imagine naïvement que quelqu'un est redescendu avec lui. Jusqu'à ce que Lucas me murmure qu'on l'a laissé pour mort là-haut dans la neige. Après des heures de descente épuisantes, l'un des organisateurs semble vouloir trouver un endroit idéal pour planter le campement. Je lui fais remarquer que l'un de nous est mort, que Prashant est exténué et qu'il faut qu'on plante une tente au plus vite. Et là, il me rétorque « But this is a sport, man ». Mais c'est la loi du sport, mec. La formule me laisse sans voix. Moi, à l'inverse, je me suis toujours demandé si je n'en avais pas trop fait. Priver Somedjit de son sac, c'était exposer son dos en sueur au vent glacial. Et je me demande si, en voulant l'aider, je ne l'ai pas affaibli davantage. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait le contraire de ce que j'aurais dû, c'est-à-dire ne pas le forcer à franchir ce col, refuser cette fuite en avant et redescendre avec lui. Par la suite, j'ai compris que Somedjit avait succombé au mal aigu des montagnes, c'est-à-dire un insuffisant afflux d'oxygène dans l'organisme qui entraîne le coma puis la mort en quelques heures. Aussi, en me repenchant sur cette histoire aujourd'hui, je me demande aussi pourquoi Somedjit n'a pas déclaré son insuffisance respiratoire lors du test d'aptitude préalable. Pourquoi il s'est entêté à se lancer dans une expédition à laquelle il n'a jamais semblé prendre de plaisir quelconque.